Dans un communiqué publié ce mercredi, la Banque centrale du Congo a annoncé la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, en sigle, est mise sous gestion d'une administration provisoire pour une durée de 180 jours. Celle-ci a pour mission d'assurer la gestion courante de cette banque et de préparer son plan de redressement. Entre-temps, l'Assemblée nationale a recommandé la semaine dernière au gouvernement congolais de rembourser 30 millions de dollars américains à la BIAC. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec Jean-Louis Kayembe Okayembe, il est directeur général de la Banque centrale en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires. Bonsoir, monsieur Jean-Louis Kayembe Okayembe.
Bonsoir, monsieur.
Emmanuel Nyalulera, il est membre du directoire national du CDR, parti de l'opposition. Il est ancien chef de service des opérations bancaires à la Banque centrale du Congo. Bonsoir, monsieur Emmanuel Nyalulera.
Bonsoir, monsieur.
Et Israël Moutala, journaliste, il est analyste politique et économique. Bonsoir, monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC en sigle, mise sous gestion de la Banque centrale du Congo, dans un communiqué signé par le gouverneur de la BCC, un comité d'administration provisoire est mis en place et il a 6 mois pour redresser la BIAC. Objectif, aboutir à l'ouverture du capital de la BIAC et à d'autres preneurs. Selon les acteurs des opérations de la BCC, les épargnants de la BIAC n'ont rien à craindre car ces difficultés seront bientôt résolues. Jean-Louis Kayembe a été joint par Nadine Foulane Simba.
La direction de la banque, les conseils sont donc mis en veilleuse. Et c'est le comité d'administration qui va gérer la banque.
Donc on peut dire que le premier comité n'a pas réussi à redresser cette banque dont les difficultés continuent.
Tout à fait. Disons, parce que dès le départ, il y a eu des missions qui ont été diligentées au sein de la banque. Au sein de ces missions, il y a eu des rapports qui ont été faits, qui ont donné lieu à un plan de redressement sous l'administration provisoire.
Pourquoi la banque centrale ne va pas demander l'ouverture de capital de la BIAC à d'autres banques?
C'est ça en fait l'aboutissement du processus. C'est que lorsque la banque était gérée par cette direction qui a été mise en place par les actionnaires, donc la banque centrale n'avait pas le droit au regard des dispositions actuelles de demander à d'autres actionnaires d'entrer dans le capital. Maintenant qu'on a suspendu le conseil d'administration ainsi que la direction de la banque, c'est l'ouverture de capital qui est en perspective et que d'autres actionnaires puissent entrer dans le capital, apporter de l'argent pour conforter la situation financière de manière à ce problème de solvabilité, notamment des dettes, seront résolus immédiatement.
Jean-Louis Kayembe Okayembe, directeur général de la Banque centrale en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires. Nous venons de vous suivre. La BIAC mise sous gestion de la Banque centrale du Congo, et cela, selon vous, est consécutif, n'est-ce pas, au fait que le premier comité n'a pas pu réaliser les objectifs qui lui étaient assignés. Et quels sont les atouts qu'a ces nouveaux comités, le nouveau comité provisoire, et qu'elle n'avait pas les précédents comités pour redresser la BIAC?
Merci, monsieur, pour votre question. D'abord, si vous permettez, que je puisse dire un mot par rapport à cette administration provisoire, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Des gens veulent savoir en quoi consiste l'administration provisoire ou ces comités provisoires. Donc, vous devez savoir que les législateurs ont investi la Banque centrale d'une mission de surveillance de tous les secteurs bancaires, donc de tous les établissements de crédit. Et lorsque la Banque centrale constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité de la loi ou des règlements pris pour son exécution, la Banque centrale est dans les droits, donc, lorsque elle constate une lacune grave, et là, elle est dans les droits, donc, de désigner un représentant provisoire dans un premier temps. Un représentant provisoire, c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons désigné au mois de février, c'est-à-dire un comité qui n'a pas d'emprise sur la gestion, mais qui est au sein de la banque, mais pour surveiller toutes les opérations qui se passent au niveau de la banque. Alors, lorsque on constate que les lacunes persistent, La Banque centrale, conformément toujours à la loi, peut également désigner un administrateur provisoire. Un administrateur provisoire veut tout simplement dire que c'est la Banque centrale nomme un gérant provisoire. Et donc, ce gérant est donc sous la supervision de la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui prend en d'autres termes la gestion de cette banque. Alors, pour revenir à votre question, ce que nous avons observé, c'est qu'après plusieurs injonctions, comme je l'avais dit, au terme des missions de contrôle qui ont été diligentées, il y avait donc un problème dans l'exécution de la mise en œuvre de ce plan de redressement ou un ensemble de mesures, des actions que la banque devrait mener pour redresser la situation de la banque. Et donc, la banque est allée plus loin, constater donc qu'il y avait des lacunes graves dans l'exécution de ces plans. Et c'est ainsi donc nous avons commencé par la première étape d'un représentant provisoire et comme cela a continué, nous sommes donc passés à la vitesse supérieure en désignant un comité d'administration provisoire. Alors, les atouts, c'est qu'à la tête de ce comité, nous avons mis un banquier, un professionnel, et quelqu'un qui a une longue expérience dans le secteur bancaire et donc qui n'est pas nouveau et ça c'est un atout. Et aussi, il est encadré par des auditeurs et des gens qui ont travaillé très longtemps dans la supervision bancaire. Donc c'est un comité qui va travailler, qui comprend des professionnels, qui ont de l'expérience de banque, et nous pensons que c'est un atout, le fait également qu'ils ont le soutien, et ils sont là pour mettre en application des injonctions et des plans de redressement de la Banque centrale.
Oui, vous dites que c'est un comité qui comprend des professionnels qui ont une certaine expérience, mais vous accordez 180 jours à ces nouveaux comités pour présenter un plan de redressement. Vous pensez que 6 mois suffiront pour un comité qui est installé dans un environnement de quasi-méfiance de la part des clients et surtout dans les conditions où les prêts des 30 millions garantis par le gouvernement n'est pas toujours remboursé?
Non, nous pensons qu'ils ne vont pas travailler seuls, comme je l'ai dit, ils vont travailler également avec l'appui de la Banque centrale. Donc, nous, conformément à la loi, je crois que la loi nous donne un délai de 3 mois à ces comités d'administration provisoire pour qu'ils puissent faire un plan de redressement qui devait aboutir donc à présenter, à dresser tout le problème, à faire donc un window dressing qui donc indiquer les pistes de solutions pour restaurer très rapidement la situation financière de la banque. Ainsi donc, nous pensons, parce que ce délai n'a pas été fixé au hasard, et nous pensons que c'est dans ce bref délai, la situation, l'état des lieux devait être fait, et nous connaissons déjà les problèmes plus ou moins, parce que les problèmes sont connus, les problèmes de la banque au clair, qu'il faut des capitaux, il faut injecter, il faut recapitaliser la banque pour conforter les fonds propres de la banque. Donc le problème étant connu, je pense que les 3 mois, c'est amplement suffisant, le délai qui est accordé en partie à ces comités est amplement suffisant pour qu'ils puissent finaliser très rapidement le plan de redressement. Et donc ce plan à coup sûr devrait aboutir par un appel de fonds, et cet appel de fonds, déjà, en passant, je vous signale que déjà il y a de repreneurs qui sont en train de toquer à la porte, et donc la Banque centrale pour pouvoir reprendre la banque. Donc nous pensons que ça devait aller très vite, et nous sommes confiants, et nous devons donc encore une fois tout simplement appeler la population, la clientèle, à garder les calmes, à ne pas céder à la panique, parce que, comme vous le savez, ce qui peut empêcher à ce que la banque retrouve très rapidement sa situation financière, son équilibre, c'est le fait que si tous les épargnants, tous les clients cherchent à retirer leur argent, donc si c'est la ruée vers les dépôts, si les retraits massifs continuent, et cela risque de compliquer l'équation. Comme vous le savez, les banques, ce sont des institutions qui travaillent avec l'argent des déposants. Donc, une banque fait le commerce d'argent, reçoit de l'argent sous forme de dépôt et utilise cet argent pour des crédits. Alors, lorsque tous les déposants viennent au même moment, ils veulent tous retirer leur argent, ça risque de compliquer et ça risque donc de faire en sorte qu'on ne retrouve pas rapidement une solution. Donc, l'appel pour la Banque centrale, c'est que les déposants se calment. Nous allons trouver des solutions dans notre temps, en attendant qu'on trouve un repreneur au problème de liquidité.
Monsieur Jean-Louis Kayembe,
Oui.
Cette mise sous tutelle de la BIAC par la Banque Centrale du Congo ne vise-t-elle pas la dissolution pure et simple de la BIAC?
Non, il y a un processus pour arriver à la dissolution de la BIAC. La dissolution de la BIAC veut dire que faire disparaître la BIAC, ce qu'on ne peut pas envisager au regard de la taille de cette institution bancaire. Comme vous le savez, la BIAC, c'est une banque d'importance systémique, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de bilan quand même très élevé, au-delà de 500 millions, qui a des dépôts très élevés, de 425 millions, des crédits également autour de 300 millions.
Merci.
Et donc, c'est une banque qui ne peut pas disparaître. Et la Banque centrale a comme objectif, et cela d'ailleurs a été cristallisé dans les recommandations qui ont été faites par l'Assemblée nationale a recommandé à ce que la Banque centrale, conformément à la loi, veille à la protection des dépôts.
Et justement, on va revenir sur les recommandations de l'Assemblée nationale. Merci Emmanuel Nyalou-Lera, vous êtes membre du directoire national du CDR, parti de l'opposition, vous êtes ancien chef de service des opérations bancaires à la Banque Centrale du Congo. Comment vous réagissez à cette mise sous gestion de la BIAC par la Banque Centrale du Congo?
Oui, merci beaucoup. Je suivis avec attention le directeur général KMB, que je connais bien, que je salue en passant. Eh bien, ce qu'il dit est très juste au sujet de l'opération qui est en cours, sauf que nous déplorons que cette réponse intervienne si tardivement. Pourquoi tardivement? Eh bien, c'est depuis 2012, d'après les informations à notre possession, c'est depuis 2012 que on constate un certain dysfonctionnement de la BIAC, et les éléments que nous avons indiquent que déjà en 2012 la Banque centrale avait lancé un signal d'alarme et avait demandé à la BIAC de restituer son fonds de, disons, ses fonds propres. Ces fonds propres sont tombés en dessous de la norme requise par la loi bancaire. Parce que la loi bancaire impose aux banques de ne jamais avoir de fonds propres en dessous, inférieurs à leur capital minimum. Mais là, c'est depuis 2012 que la BIAC est dans cette situation où ses fonds propres commençaient à s'effriter. Et c'est seulement aujourd'hui que et les mesures sont prises, bien sûr, à la faveur de ce qui est arrivé. Et ce qui est arrivé, nous, au CDR, nous nous frottons les mains, disons, nous nous félicitons d'avoir été en quelque sorte artisans de cette mesure salutaire qui est en train d'être faite au profit de la BIAC.
Parce que le président de votre parti politique, le député Jean-Lucien Boussa, a adressé une question orale avec débat au gouverneur de la Banque centrale.
Justement, c'est pourquoi j'ai dit justement que c'est grâce sûrement à cette action de notre président national Jean-Lucien Boussa que les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé dans le sens de restructurer la banque et de ramener sa situation au niveau acceptable pour préserver justement l'épargne du public. Parce que nous tenons plus à ne pas mettre notre population, notre peuple en difficulté s'agissant justement d'une banque, comme vient de le dire KMB, le directeur général KMB. C'est une très grande banque qui brasse énormément d'opérations, qui a un total bilantaire assez important et donc une clientèle assez diversifiée.
Emmanuel Nyalou-Lera, vous évoquez le fait que c'est depuis 2012 que l'on avait constaté ces dysfonctionnements à la BIAC, mais rien n'était fait, n'est-ce pas, pour essayer de sauver cette banque. Et à l'issue du débat à l'Assemblée nationale au sujet de, n'est-ce pas, de la crise qui traverse la BIAC, il a été constaté que que la Banque centrale du Congo n'assume pas son indépendance constitutionnelle en ce qui concerne la conduite de la politique monétaire du pays. Et vous pensez que c'est en toute indépendance que la Banque centrale du Congo a pris la mesure qu'elle vient de prendre au sujet notamment de la mise sous gestion de la BIAC?
Nous l'espérons bien, c'est justement ça le problème, parce que en fait on devait aussi commencer par situer les responsabilités dans cette affaire. Les responsabilités sont partagées. Il y a la BIAC elle-même qui a sa part de responsabilité, il y a la Banque centrale qui a bradé pratiquement, qui a aliéné son indépendance. L'indépendance lui reconnue par la Constitution et par la loi 005 qui fait service de statut de la Banque centrale, eh bien, la Banque centrale a tout simplement aliéné son indépendance en cédant aux injonctions du Premier ministre qui lui demandait, alors qu'il était question, on pouvait bien récupérer la BIAC. La BIAC est allée en refinancement auprès de la Banque centrale pour justement avoir le moyen trésorerie lui permettant de continuer à assurer normalement son service à la clientèle. Et là, il a obtenu une ligne d'avance en compte courant à la Banque centrale, mais qui finalement a été annulée sur injonction du Premier ministre. Alors, et le gouverneur a obéi à cette injonction alors qu'il n'y était pas tenu. Parce que la loi lui interdit de poser des actes de nature à aliéner l'indépendance de la Banque centrale.
Monsieur Emmanuel, ce qui vient d'arriver, est-ce que c'est une évolution normale dans un processus de redressement d'une banque comme la BIAC, où il y avait une autre thérapie qu'on pouvait appliquer?
Non, à mon avis, ce qui est entrepris actuellement est la bonne réponse. La bonne réponse, parce qu'au niveau où on en était, on ne pouvait pas faire autrement. Bien sûr, il y avait, si on avait pris cette affaire au départ, en 2012, dès qu'on avait commencé à constater cette mauvaise pente, on aurait peut-être sauvé le meuble. Mais comme on n'y est pas, on a laissé pourrir la situation. Comme on a laissé pourrir la situation, eh bien, nous en sommes au niveau où on doit administrer à cette banque ce qu'on appelle la cure de cheval. Et c'est ça, la mise sous décision administrative. Et c'est une mesure tout à fait correcte qui a, comme le définit la loi, l'article 41 de la loi 005, eh bien, 003, a pour mission d'assurer la bonne gestion de la banque, élaborer un plan de redressement et proposer éventuellement la liquidation au cas où on n'arrive pas à redresser la banque après cette mise sous gestion administrative.
J'ai posé la même question à M. Jean-Louis Kayembe. Et vous pensez que le fait de mettre en place un nouveau comité provisoire dans un contexte difficile, hein, caractérisé notamment par cette quasi méfiance, n'est-ce pas, des clients de la BIAC, et aussi par le fait que le gouvernement n'arrive toujours pas à rembourser les 30 millions qu'il doit à la BIAC, vous pensez que 30 jours vont suffire, n'est-ce pas, pour plutôt 3 mois vont suffire pour permettre à ces comités de pouvoir redresser cette banque?
Nous espérons bien que on arrivera à la redresser dans ces délais-là. Mais à condition justement que la banque ait une ferme détermination de résister aux injonctions du gouvernement, et que le gouvernement laisse le coup de franche à la banque pour qu'elle puisse exécuter sa mission selon les règles de l'art. Donc, il faut que le gouverneur de la Banque centrale arrive à s'affranchir de la tutelle d'un Premier ministre envahissant, et également...
Cela est possible dans un contexte comme le nôtre?
Je ne sais pas, mais la loi permet donne au gouverneur, garantit l'indépendance de la Banque centrale et protège le gouverneur. Il ne peut pas être poursuivi ou, disons, connaître quoi que ce soit en termes de sanctions disciplinaires ou quoi, parce qu'il a désobéi aux injonctions du Premier ministre s'agissant d'une matière où le Premier ministre n'a rien à faire.
Merci. Merci Israël Moutala, journaliste, analyste politique et économique. Quelle analyse vous faites de la mise sous gestion de la BIAC par la Banque centrale du Congo?
Merci de la question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord adresser toute ma sympathie et ma compassion aux épargnants de la banque qui sont durement touchés par cette situation malheureuse qui attriste beaucoup de familles, beaucoup de particuliers, beaucoup d'entrepreneurs. Ma première pensée va à ceux qui souffrent par rapport à la crise de la BIAC. J'aimerais d'abord dire que il est dommage que nous en soyons arrivés à cette situation de la BAC, de la BIAC qui est quasiment déstructurée.
Qui était presque prévisible, parce que vous avez suivi M. Manuel qui dit que c'est depuis 2012 qu'on avait constaté ces dysfonctionnements au sein de la BIAC.
Mais justement, mais je ne suis pas d'accord avec M. Manuel, parce que visiblement avec la BIAC, il faut le dire haut et fort, et je le dis à M. Jean-Louis Kayembe, qui est une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup de respect, qu'il y a eu une défaillance notoire de la Banque Centrale du Congo. C'est à la Banque Centrale du Congo que revient aussi la mission de la supervision des institutions financières et bancaires.
Et cela a été rappelé à l'Assemblée nationale.
Alors, la Banque Centrale a failli, justement. Elle a toute une direction, justement, qui doit, justement, superviser les institutions bancaires. Elle doit observer les ratios de liquidité. Elle doit observer les ratios de rentabilité. Elle doit observer les ratios de solvabilité. Or, les ratios, ces trois ratios, notamment, étaient au rouge depuis bien longtemps. Elle n'a pas pris les mesures idoines. Donc, il est facile, aujourd'hui, d'essayer de jeter la faute au Premier ministre, mais non.
Et cette incurie de la Banque Centrale, s'il faut l'appeler ainsi, peut être due à quoi? À ces manques d'indépendance vis-à-vis du gouvernement congolais?
Non, il ne s'agit pas d'abord d'indépendance, parce que le Premier ministre est intervenu, le Premier ministre est intervenu quand la ligne de refinancement, justement, menaçait le cadre macroéconomique. Il appartient quand même au gouvernement de protéger le pouvoir d'achat de 80 millions de Congolais. Bien qu'il est aussi garant de l'épargne de 300 000 personnes physiques et morales qui a la BIAC. Mais d'abord, entre le pouvoir d'achat de 80 millions de Congolais, justement, et une ligne de refinancement, qui n'en était pas en fait une ligne de refinancement. Parce que cette ligne de refinancement que la BIAC avait obtenue auprès de la Banque Centrale du Congo, elle doit en principe justement rembourser après 3 jours. Le remboursement ne se faisait pas après 3 jours. Les remboursements se faisaient après 1 mois. Et ils étaient reconduits tacitement.
Et donc les échéances n'étaient pas respectées.
C'était une sorte de revolving. Ça veut dire que vous reconduisez par tacite reconduction. Et même... c'était même pas vraiment... et même les montants s'accroissaient. C'est pour montrer que le problème n'était pas là. Et donc, la décision aujourd'hui de mettre la BIAC sous tutelle, est une décision que le gouvernement avait préconisée depuis plusieurs mois. Mais aujourd'hui, la Banque Centrale vient de prendre cette décision il y a 48 heures, mais il y a une erreur monumentale de jugement et d'appréciation de la situation catastrophique dans laquelle était la BIAC. Je rappelle ici, parce que les gens rappellent, oh non, le gouvernement a pris 30 millions à la BIAC. Non, le 30 millions de créances qu'avait la BIAC sur la police, Et l'OCPT, et le gouvernement était venu en garantie. Mais même là aussi, la BIAC a fauté. Parce que quand la police et l'OCPT ont délocalisé leur compte, parce que le gouvernement n'avait pas forcé la BIAC à donner un crédit d'une valeur de 30 millions de dollars à la police et à l'OCPT, pour la fibre optique notamment. C'est parce que dans les livres de la BIAC, il y avait les comptes, justement, de ces deux institutions. Mais ces deux institutions ont obtenu le crédit. Et ils ont délocalisé leurs comptes dans cette institution. La BIAC n'a pas réagi pour écrire au gouvernement en disant non, donnez l'ordre à ces deux institutions de rester dans nos livres pour que nous contrôlions, justement. La BIAC n'a rien fait. Là aussi, justement, il appartenait, justement, à la Banque Centrale de vérifier tout ça. Vous avez la BIAC, je rappelle encore ici, que la BIAC elle-même, elle a gaspillé 30 millions de dollars que un fils
Blattner dans le comité a donné à des entreprises qui étaient déjà en faillite. Donc, on a pris l'argent des Congolais, 30 millions, on est parti. Il y a un ancien cadre de la BIAC, je crois, de Mlot, qui est parti avec 7 millions de dollars. Il y a eu la crise du bug informatique qui a emporté 33 millions de dollars des Congolais. Et là, la Banque centrale n'a même pas audité ce bug-là pour certifier ses comptes là-bas. Non, là aussi on a perdu de l'argent. Vous avez eu aussi une institution qui est en difficulté, mais dont le personnel a des salaires surpayés. Monsieur Le Sembe, qui vient de quitter la BIAC, avait un salaire de plus de 100 000 dollars. Vous trouvez normal qu'une institution qui n'est pas qui n'est pas en bonne santé financière puisse payer à un de ses administrateurs un salaire aussi mirobolant? Il n'y avait pas que M. Le Sembe, mais tout le staff avait des salaires mirobolants. C'était impensable. Mais il y avait aussi la dette que justement la Banque centrale, la BIAC, a aussi vis-à-vis de l'Assemblée nationale, je crois, 12 millions de dollars. Vous avez une autre créance qu'a la BIAC sur l'ex-province de l'Équateur, 5 millions de dollars. Et donc, quand vous analysez, vous mettez tous ces chiffres ensemble, ça fait 60 millions de dollars. 60 millions qui portent sur un seul secteur, le secteur public. Bon, c'est connu pour tous. Pour tous, c'est élémentaire en économie. On ne peut pas mettre toutes ces ressources dans un même panier. Il faut diversifier le portefeuille. Alors, vous avez une concentration du portefeuille de la BIAC sur le secteur public. Et tout ça, la supervision à la Banque centrale, ils n'ont rien vu. Il y a toute une direction pour ça. Une banque systémique comme celle-là, il faut être rigoureux. Parce que la chute de cette banque peut entraîner d'autres chutes. Et donc, alors, il était temps, justement, quand on a constaté maintenant que la ligne de refinancement, elle ne faisait qu'augmenter, parce que au dernier mot, les derniers chiffres font état de 75 milliards de dollars qu'on a donné à la BIAC, justement, dans cette ligne de financement, mais ça n'a pas arrêté la crise.
Alors, si cette situation s'est produite parce que, quelque part, la Banque centrale était restée passive, cela voudrait dire que même les comités provisoires qui viennent d'être mis en place par la Banque centrale ne va rien faire, parce que, en fait, la situation était connue depuis longtemps par la Banque centrale, mais celle-ci n'a pas réagi pour essayer de sauver cette banque.
Non, la BIAC. Non, ça veut dire que la BIAC peut être encore sauvée. Mais j'aimerais me rappeler d'abord dans quel contexte le Premier ministre est intervenu. Parce qu'il faut quand même que nous soyons rigoureux sur les faits. Ça veut dire que la ligne de refinancement, justement, était une cause de l'inflation. Alors, il fallait arrêter absolument. Voilà pourquoi est-ce que le Premier ministre a tapé du poing sur la table. Merci. Ce n'était pas une émission, mais c'était aussi parce que l'indépendance de la Banque centrale rime avec responsabilité. Il était dans le devoir du Premier ministre, justement, de remettre de l'ordre, et il l'a fait. Mais j'aimerais terminer en disant que, justement, la situation de la BIAC, elle n'est pas désespérée, mais il faudrait trouver, justement, le moyen, parce que c'est quand même une ardoise de 90 millions de dollars qu'on laisse aux Congolais. Il ne faudrait pas que M. Blattner, qui avait une mise de 11 millions de dollars, s'en tire à si bon compte. Il faudrait que cette dette, qu'on voie le moyen de l'épurer, parce que les nouveaux repreneurs ne veulent pas de cette ardoise de 90 millions de dollars.
Merci. L'Assemblée nationale a recommandé la semaine dernière au gouvernement congolais de rembourser 30 millions de dollars américains à la Banque internationale pour l'Afrique Congo BIAC en sigle, un prêt pour lequel il s'est porté garant. C'est la principale recommandation de la plénière à huis clos de l'Assemblée nationale, publiée dans un communiqué mercredi 25 mai dernier à la suite de la question orale du député Jean-Lucien Boussa à l'endroit du gouverneur de la Banque centrale du Congo. On écoute Jean-Lucien Boussa, joint par Berry Franklin Loujaka.
La première recommandation que moi j'ai faite au niveau de l'Assemblée nationale, c'était en direction du gouvernement. Le gouvernement a l'obligation de rembourser les 30 millions de dollars qu'elle a garantis auprès de la BIAC. C'est important. Deuxième chose, en termes de responsabilité, que la Banque centrale agisse conformément à la Constitution, parce qu'elle est indépendante dans la conduite de la politique monétaire et que par conséquent le gouvernement ne puisse pas interférer dans la conduite de la politique monétaire du pays. Troisième recommandation que nous avons faite, c'est en direction de la BIAC elle-même. La BIAC a l'obligation, à travers son actionnariat, de récapitaliser la banque, mais aussi d'améliorer son management interne. Il y a aussi une recommandation adressée à la Banque centrale, de même adressée à la Banque centrale du Congo, que la Banque centrale assume son indépendance constitutionnelle. Deux, que la Banque centrale puisse rapidement trouver un repreneur qui peut amener des capitaux frais à la BIAC pour permettre ainsi à la BIAC de pouvoir retrouver son fonctionnement normal. C'est à ces prix et à ces prix seulement que nous pourrions éviter la crise que nous avons vécue au niveau de la BIAC, mais surtout que nous allons protéger les épargnes des particuliers, mais en même temps laisser à cet organisme financier la possibilité de pouvoir assumer son rôle dans l'économie par l'octroi des crédits bancaires.
Monsieur Jean-Louis Kayembe à Kayembe, vous allez réagir aux recommandations formulées par l'Assemblée nationale, mais aussi il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Issiro.
Honorable Paul Odiane à Issiro, les dossiers de la BIAC montrent à suffisance le niveau de la légèreté de la BCC dans les domaines de gestion des institutions financières dans notre pays. Les microfinances telles que Galalétou, Baraka ainsi que les autres ont pillé les maigres ressources de la population sous les barbes de la BCC sans suite favorable. Cette pratique décourage davantage les épargnants. En plus, par quel mécanisme ou pour quel projet le gouvernement s'est endetté aussi auprès de BIAC?
Oui, M. Jean-Louis Kayembe Okayembe, votre réaction?
Oui, ma réaction c'est d'abord par rapport à tout ce qui a été dit. Je crois que le débat est technique, n'est pas politique. Le débat n'est pas opposition, n'a pas de couleur d'opposition ou de couleur de quoi que ce soit. Je crois que nous devons rester techniciens et quand nous intervenons, ce n'est pas pour défendre qui que ce soit. Alors, par rapport à, je ne veux pas revenir parce que vous savez, c'est un dossier très sensible. C'est pas pour rien que, par rapport aux responsabilités des uns des autres, au niveau même du Parlement, c'est une question qui a été traitée en huis clos. Donc je crois que nous devons être responsables quand nous avançons des affirmations et nous devons mettre des gants et ne pas dire n'importe quoi. Donc je ne suis pas venu ici pour donner des points de vue techniques et donc rester technique et ne pas...
Et s'il faut rester technicien, M. Kayembe,
je vais corriger quelque chose.
Qu'est-ce que vous répondez, n'est-ce pas, à ces...
J'aurais dit ceci.
Oui.
On a parlé de... Il faut quand même corriger certaines choses qui ont été dites. Le financement, on a parlé des revenus. Je crois qu'il faut parler des choses que l'on maîtrise. On maîtrise mieux. Des choses qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas la maîtrise. Je crois qu'il ne faut pas s'aventurer. Dans les secteurs de banques, le secteur de la macro-prudentielle, micro-prudentielle, je crois qu'il faut être un technicien pour pouvoir... Quand on parle des choses, des lignes de refinancement, des revolving, qu'on sache de quoi on parle. Donc je ne veux pas entrer dans les détails.
Que répondez-vous, monsieur Jean-Luc Kayembe? Que répondez-vous par rapport d'abord aux recommandations qui ont été formulées par l'Assemblée nationale et par rapport à la question des auditeurs des ICO?
Les recommandations sont sans commentaire. Ce sont des recommandations qui doivent être exécutées et qui ont été faites après analyse. Après un débat, échange houleux par des honorables députés, et je crois que nous n'avons pas le droit de revenir sur les recommandations qui ont été faites par une haute instance du pays. Nous n'avons que à les mettre en exécution parce que nous pensons qu'elles sont justes. Et donc toutes les parties prenantes doivent s'impliquer pour une solution durable en faveur pour protéger les déposants et pour éviter pour faire en sorte que l'activité puisse continuer.
Monsieur
donc, toutes les institutions, nous devons œuvrer par ça. Nous avons pris acte de ces recommandations et nous allons nous impliquer et donc à les réaliser.
Vous avez pris acte des recommandations de l'Assemblée nationale et il y a aussi cet éditeur de Siro qui a rêvé...
Monsieur le gouvernement a pris acte. Et je crois que ce sont des recommandations. Si toutes les parties prenantes les mettent en exécution, nous allons arriver à une solution, à très court terme, une solution qui pourra nous permettre de relever les niveaux.
Et que répondez-vous à cet auditeur de ICIRO qui dit que le dossier de la BIAC montre en suffisance les niveaux de la légèreté, n'est-ce pas, de la BCC dans le domaine de la gestion des institutions financières dans notre pays?
Je voudrais juste donner quelques chiffres. Vous savez que c'est notre rôle. Nous faisons notre travail comme nous devions le faire. Et la loi nous donne donc ce pouvoir de le faire, d'assurer les contrôles. Et donc, nous effectuons des missions. Nous n'avons pas de façon l'obligation de faire publicité par rapport au travail que nous faisons. Nous avons effectué 132 missions de contrôle les trois dernières années. Et des réunions techniques avec les institutions financières, avec les banques. Et pour montrer que le système financier est en bonne santé et il est stable. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2001, au niveau des dépôts bancaires, nous étions à moins de 100 millions. Nous étions à 97 millions. Maintenant, en 2016, nous sommes à 3,6 milliards de dépôts.
Cet indicateur seulement, l'accroissement des dépôts, atteste la confiance de la population dans les systèmes bancaires. Les crédits, nous étions en 2001 à 48 millions. Aujourd'hui, nous sommes autour de 2,4 milliards. Le total des bilans, les banques, toutes les banques confondues, total bilantaire, c'était moins de 200 millions.
Merci.
Nous étions à 178 millions. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 100 milliards, pour ne pas évoquer le nombre de comptes.
Merci, Monsieur Emmanuel Nyalulera. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kinshasa.
Joël Bongo Longondo, je suis à Kinshasa. J'estime que cette décision va résoudre les problèmes, d'autant plus que la Banque Centrale du Congo, qui va assurer l'administration, va éviter tout blocage de fonctionnement. Elle-même ayant été à la base de cette situation, trouvera par là l'occasion de bien mesurer les conséquences. Dire simplement que la mesure est salutaire pour la BIAC, ses clients et toute l'économie nationale.
Oui, Monsieur Emmanuel.
Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur un ou deux points. D'abord, s'agissant de l'intervention de mon ami Israël Moutala, analyste politique et économique, j'ai senti que il est tantôt dans le même chemin que moi, s'agissant du retard que la Banque centrale a mis pour constater les dégâts et y répondre. Il est avec moi sur ce point-là, mais sur d'autres, nous sommes diamétralement opposés quand il donne un quelconque rôle à jouer au gouvernement dans la mise en œuvre de la politique monétaire de la Banque centrale. Non, le gouvernement n'a aucun rôle à jouer là-bas. C'est un secteur exclusivement réservé à la Banque centrale. L'élaboration et la mise en œuvre de la politique monétaire. Et là, tout ce que le gouvernement a à faire, c'est d'attendre que la Banque centrale fasse son travail. Donc sur ce point-là, avec mon ami Israël, nous ne sommes pas d'accord. Et avec Jean-Louis Kayembe, je sens qu'il il prêche pour la chapelle, ça c'est tout à fait normal. Qu'il se rassure, que nous, qu'il se calme, nous aussi, nous ne faisons pas, parce que nous en savons beaucoup sur ces dossiers BIAC. Et nous, CDR, nous sommes une opposition responsable, nous ne pouvons pas mettre tout ce que nous connaissons à la place publique, parce que notre souci à nous, c'est que cette banque-là soit redressée et que tous nos compatriotes qui ont des intérêts là-dessus, là-dedans, clients ou autres, puissent retrouver leurs fonds sans problème. Ça, c'est notre souci.
Par rapport aux recommandations qui ont été formulées par l'Assemblée nationale, notamment les remboursements par les gouvernements.
Notre président national, Jean-Michel Boussa, vient de le dire. C'est une obligation qui incombe au gouvernement de payer. On ne peut pas prendre une dette auprès d'une banque et ne pas la rembourser. Mais ça, c'est quoi? Ça se fait où? Là-bas, je crois que le gouvernement doit prêcher par l'exemple. Vous ne pouvez pas vous entêter auprès d'une banque et ne pas rembourser. Et à présent, l'injonction a été donnée, mais nous ne voyons rien bouger. Mais je crois que nous sommes dans un pays où vraiment c'est le monde à l'envers, où le gouvernement peut poser des actes de cette nature qui mettent en danger toute l'économie nationale. Et maintenant, pour répondre à la préoccupation de notre ami de Kinshasa, qui a demandé si maintenant que le comité de gestion est en place, la gestion administrative de la Banque centrale est instituée à la BIAC, si nous pouvons espérer que tout va s'arranger maintenant pour ceux qui ont des intérêts dans cette banque. Eh bien, je l'ai dit et je le répète, tout ce que nous cherchons, tout ce que notre président national a cherché lorsqu'il a posé ce problème, eh bien, c'était justement pour que tout s'arrange et nous croyons, nous espérons que ça va s'arranger. Et de toutes les façons, nous veillons au grain. Nous veillons au grain. Nous avons l'œil là-dessus. Nous sommes en train de surveiller que nos compatriotes se rassurent. Le CDR ne laissera pas ces problèmes tant qu'une solution n'a pas été trouvée, une solution acceptable.
Israël Moutala, il y a une question qui vous adressait. Elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud Kivu. C'est bien de penser déjà au plan de redressement de la BIAC pour qu'elle recouvre sa situation normale, sa situation d'antan. Mais tant que la véritable gestion de cette banque est encore entre les mains des politiciens, il y a toujours au risque que ce plan ne puisse pas se matérialiser. Il serait alors souhaitable que pour une gestion rationnelle de cette institution financière, sa responsabilité revienne plutôt aux techniciens du domaine qu'aux politiciens si l'on veut bien s'assurer de sa survie.
Oui, Israël Moutala.
Bon, je ne sais pas si elle était gérée par des politiciens. La BIAC a été gérée, c'est une banque privée, qui a été mal gérée par les privés. Et cette mauvaise gestion n'a pas été détectée à temps par la Banque Centrale du Congo, à qui revient la mission de supervision. Je suis désolé de le dire, malgré mon amitié et ma sympathie pour Jean-Louis Kayembe, qui s'est un peu titillé, mais c'est la vérité.
Vous avez, donc, vous avez évoqué un certain nombre de faits, n'est-ce pas, qui montrent que redresser la BIAC aujourd'hui sera quelque chose de très difficile. Il y a même des experts qui pensent que le gouvernement devrait avoir le courage de déclarer la faillite de la BIAC, au lieu de faire croire qu'il y a encore espoir. Est-ce que vous partager ce point de vue?
Non. L'espoir est permis. L'espoir est permis. La défaillance de la Banque Centrale, elle est actée et tout ça, elle cause beaucoup de tort aux épargnants congolais. C'est pour permettre à cette institution de faire mieux. Quand vous regardez les nombres de désordres qu'il y a dans les messageries financières et dans d'autres banques, vous comprenez qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le secteur de la supervision. N'en déplaise à M. Jean-Louis. Mais j'aimerais dire que la situation n'est pas désespérée. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement a pris d'abord une mesure salutaire en demandant aux gros déposants, les entreprises publiques notamment, et à certains partenaires financiers de garder leurs dépôts à la Banque Centrale, et à la BIAC. Donc c'était déjà toutes les entreprises publiques qui ont leur compte là-bas. Le gouvernement leur a demandé de ne pas y toucher, de continuer à domicilier leur compte à la BIAC. C'est vous dire qu'il y a un espoir. Le gouvernement, je pense qu'on a eu une occasion en or pour que le gouvernement entre dans le capital de la banque qui sera restructurée bientôt avec des capitaux frais, parce que je pense que cet ardoise des 90 millions de dollars, le gouvernement peut l'éponger sous forme de facilité fiscale, quitte à compenser en entrant dans le capital. Et donc, il y a une chance. La BIAC a toute... Moi, j'ai bon espoir que cette banque va revivre. Donc, pas de panique. Moi, je pense que les dépôts qui sont là doivent d'abord rester. Il faut éviter ce mouvement massif de retrait. C'est parce qu'il y a un manque de confiance. Mais j'aimerais encore dire une petite chose avec mon ami Emmanuel Nyalulero. Je dis que Jean-Louis Boussa, qui est un économiste, a posé cette question. C'est une excellente question. Il a mis en lumière certaines choses. Mais ici, on ne dénie pas la Banque Centrale, justement, son rôle de concevoir et de mettre en œuvre la politique monétaire. Ici, il ne s'agit pas de ça. Elle est indépendante. Mais toutes les institutions, banque centrale, gouvernement et les autres institutions, travaillent pour l'intérêt public. C'est-à-dire, même l'indépendance ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passerelle entre les institutions. Mais il y a un moment, justement, parce que la politique monétaire, pour qu'elle soit efficace, il faut que la politique budgétaire mise en œuvre par le gouvernement soit aussi. Il faut que la politique budgétaire aille de pair avec la politique monétaire. Mais ici, la
ligne... Dès lors que le gouvernement estime que la politique monétaire n'est cadre pas avec sa politique, il a les droits de réagir.
Ici, c'est pas vraiment de politique monétaire. Ici, il s'agit de la supervision. Donc, vous avez une banque qui était en difficulté, dont le refinancement était justement une des raisons de l'inflation. Le gouvernement avait le droit justement d'intervenir.
Merci. Monsieur Jean-Luc Kayembe, vous allez conclure.
Oui, je vais conclure. Je veux seulement dire un mot. Je crois que je vais paraphraser ce que le gouverneur Deo a dit, Mutombo. Il a dit, il est important que chacun de nous puisse intérioriser que le fait que lorsqu'on va emprunter auprès d'une institution bancaire, on est servi grâce aux dépôts des autres épargnants. Pour permettre maintenant à la banque de faire face aux besoins de retrait de sa clientèle, l'emprunteur est tenu de rembourser son crédit à l'échéance convenue. Donc, à ceux qui doivent rembourser des crédits, doivent le faire parce que ces crédits ont été octroyés sur base des dépôts effectués par la clientèle. Éviter ou refuser de rembourser, ça met en péril les équilibres au niveau d'une banque.
Merci, M. Emmanuel Nalulira. Votre conclusion?
Oui, ma conclusion est que nous avons bon espoir que cette opération va aboutir à des résultats palpables et que la banque va être redressée. Mais de toute façon, nous, CDR, nous gardons un œil là-dessus parce que nous allons défendre jusqu'au bout les intérêts de notre population qui est lésée dans cette affaire.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Hippolyte Kapama qui était à la technique. Et merci à l'équipe Dialogue en Congolais, Alain Rung de Berry, Franklin Luchaka, sur la supervision de l'équipe Alamondo, à la présentation Guy Maté. Merci à ce jeudi pour un autre débat.